Divergence FM, l'interview.
Aujourd'hui, nous recevons Thibaut Brugat-Dreux, Hebdo Tour Opérator, pour le lancement donc, d'un nouvel hebdo qui s'appellera l'Hebdo, sans H. Donc, bonjour Thibaut.
Bonjour.
Donc, l'hebdo est lancé par l'équipe de 21 et de 6 mois. Donc, c'est une nouvelle revue qui sera sans publicité. Le premier numéro devrait paraître en janvier 2018. Donc, pour commencer, Thibaut, est-ce que vous pourriez nous expliquer très simplement ce qu'on va trouver dans cette nouvelle revue ?
Eh bien, tout d'abord, je vais un petit peu recontextualiser Hebdo, c'est-à-dire que en tant que fils, enfant ou fille des revues 21 et 6 mois, il s'agit de s'appuyer sur les valeurs qui ont permis à ces deux revues d'exister depuis 10 ans et 6 ans maintenant. Donc, 21 fait du grand reportage sur un format trimestriel. Mmh. Donc, c'est pas de l'actualité chaude. Le but est de surprendre en fait le lecteur en racontant des histoires où c'est toujours la petite histoire qui vient raconter la grande. Mmh. Il y a un principe de narration qui est très important dans les papiers qui est raconté, avec des photoreportages et une BD d'information qui permet de raconter différemment via le dessin une information. 6 mois, quant à lui, qui a aujourd'hui 6 ans, raconte le monde en images. Donc c'est des photoreportages qui surprennent aussi parce qu'ils racontent des histoires qui font parfois rire, parfois pleurer. Et donc ces deux revues ont pour comme point commun de n'être sans publicité et d'être donc complètement indépendantes.
Vous mettez là. Allez-y, ouais. Allez-y.
Ah, je vous remercie beaucoup. suite à l'expérience, en fait, à cette pratique du journalisme, qui est celle d'un journalisme au long cours, en fait, où la priorité est en fait le temps de l'enquête et le temps du terrain, pour ne pas raconter des histoires qui nous glissent dessus, mais avoir vraiment le temps de se rendre, d'écouter les histoires des gens. On s'est rendu compte que voilà, il y avait aujourd'hui dans la presse magazine de la publicité dans tous les titres, et on se rend compte en fait que quand un annonceur vend de la pub à un journal, il s'agit aussi que le journal représente une cible socio-professionnelle, mmh. Mais en tout cas on s'inscrit dans une démarche qui est très marketing.
Vous pensez justement qu'annoncer le fait qu'on va être un média sans pub, ça a un rôle important dans la relation de confiance qui peut s'instaurer avec le lecteur et une équipe de journalistes ?
Ah, tout à fait, parce que je pense que pour plusieurs raisons, en fait, les gens ont aujourd'hui une vision très, très négative de la presse et des journalistes, qui est aussi basée parfois sur la méconnaissance de ce travail, mais aussi sur les pratiques en fait, qui ont cours aujourd'hui, où on voit qu'avec le tempo qui est imposé à tout le monde, souvent beaucoup de journalistes ont 5 heures pour se rendre quelque part, faire une interview, avoir le temps de recouper les informations, et on se pose vraiment la question, en aussi peu de temps, comment est-ce qu'on peut vraiment s'imprégner d'un territoire, de son histoire, rencontrer vraiment les gens. On s'est rendu compte quand on a sorti, quand on a annoncé la création d'Hebdo, on a reçu plus de 800 candidatures de journalistes, et en fait, en toile de fond de tout ça, qu'est-ce qu'il y a ? C'est-à-dire que beaucoup de journalistes ont envie de travailler différemment aujourd'hui,
Ça fait partie des choses que vous mettez largement en avant justement dans la présentation du projet, c'est le constat un petit peu d'un échec de la presse. Vous parlez notamment du sentiment d'impuissance du lecteur, mais qu'on peut à mon avis retrouver chez certains journalistes. Qu'est-ce que vous proposez pour remédier à ça, à ce sentiment d'impuissance face à cette masse d'informations ?
En fait, nous, on a envie de mettre le lecteur au cœur de cette aventure. On n'a pas la promesse d'un journal collaboratif ou participatif. C'est des mots qu'on entend un petit peu partout aujourd'hui, mais qu'on a un petit peu vidé de leur sens. Et l'idée, nous, c'est d'être dans une interaction avec le lecteur, dans une interaction sous plusieurs leviers. Tout d'abord, en fait, on considère que quelqu'un qui a une expérience personnel d'un sujet via par exemple son expérience professionnelle, ses engagements associatifs ou personnels, a une expertise quelque part. Mmh. Une expertise qu'il est très bonne pour nous d'avoir, vu que la rédaction sera basée à Paris avec des journalistes qui seront en région et qui assisteront à chaque conférence de rédaction. Mais pour vous donner un exemple un peu plus pratique, qui mieux qu'une infirmière, une aide-soignante, un patient ou un médecin urgentiste serait à même aujourd'hui de nous parler de l'état des soins hospitaliers. Donc en fait, ce qu'on demande au lecteur, c'est qu'on lui donne la possibilité de faire remonter des sujets, des idées de sujets directement à la rédaction. Et là où Hebdo innove énormément, c'est-à-dire qu'il crée un poste qui n'existe pas aujourd'hui dans la presse française, c'est qu'il y a une équipe de journalistes qui seront dédiés à la réception de ces idées pour les présenter en conférence de rédaction. Mmh. Ces personnes auront une compétence éditoriale et auront donc vraiment la possibilité d'intégrer des idées, des sujets qui ensuite seront dans les pages d'Hebdo.
D'accord. Ensuite, à la charge, j'imagine, de l'équipe de faire tout le travail de vérification et...
Exactement.
De contextualisation, oui.
Pour aller plus loin dans cette démarche, en fait, on propose, si les gens sont d'accord, d'héberger les journalistes quand ils viendront enquêter dans leur localité, dans leur région.
Alors justement, comment ça se passe ? Ça, c'est intéressant quand même, ce souci justement de pas
du journaliste.
Voilà,
de
pas centraliser l'information sur Paris.
Donc, exactement. Mais on considère aujourd'hui comment ça se passe dans une conférence de rédaction pour savoir de quoi on va parler dans un journal. Soit on va en fait la plupart du temps sur le site de l'agence France Presse, qui sur un système de dépêche dit un petit peu tout ce qui s'est passé dans le monde et en France, soit on va en fait regarder ce qu'ont fait les copains journalistes dans leurs titres. Eh bien on considère que c'est pas forcément une déconnexion volontaire du terrain qui officie aujourd'hui dans les rédactions parisiennes, mais le fait d'être toujours dans un espèce d'entre-soi, enfermé à Paris, en plus à l'intérieur de Paris intramuros, c'est-à-dire qu'on sort assez rarement du périphérique, il est super important d'avoir ses capteurs, ses oreilles, ses yeux, quelque part une espèce de lecteur lanceur d'alerte qui permettent aussi de donner la réalité, le pouls de ce qui peut se passer sur le terrain. Et puis pour être tout à fait honnête, une histoire qu'on peut retrouver à Montélimar, à Bourg-en-Bresse ou à Lille, elle mettra souvent en relief les mêmes problématiques qu'on peut voir dans tout le pays. Donc l'idée est de toujours avoir ce petit point d'entrée où en fait, comme je vous le disais par rapport à 21, où c'est toujours une enquête de terrain et une petite histoire qui permettra d'aller raconter la grande, où les lecteurs peuvent se projeter, où les propos sont expliqués de manière simple. Et c'est vraiment ça qui fait un petit peu la différence, parce qu'on se rend compte en plus que les gens, il y a beaucoup d'études qui ont étudié ça, mais les gens impriment et comprennent beaucoup mieux une information lorsqu'ils la lisent sur un papier.
Oui, alors justement, j'allais rebondir là-dessus, c'est assez audacieux, c'est assez audacieux d'avoir choisi le modèle papier aujourd'hui. Est-ce que ça implique un effort particulier sur l'objet en lui-même ? La revue, elle va se présenter comment en fait ?
Ben alors l'effort est en fait tout le principe d'Edo est dans l'accessibilité. L'accessibilité du format, l'accessibilité de la maquette, etc. Donc on s'est rendu compte à travers notamment l'expérience des objets comme le Son 21 ou 6 mois, qu'ils sont parfois un petit peu impressionnants pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de lire de la presse papier. Donc il y a une attention toute particulière qui est accordée au format. Donc ce sera un format beaucoup plus petit, où je peux vous révéler un petit scoop, on sera sur un 96 pages.
D'accord.
À moins d'environ 3,50 €. Dans le sens où aujourd'hui, le moins cher de la presse magazine coûte 3,90 € et est plus ou moins rempli de publicité. Donc justement, cette notion d'accessibilité elle concerne aussi directement le prix, le format. On aura des petites innovations, vu qu'on n'a pas du tout de publicité. On aura par exemple la possibilité d'avoir deux entrées dans le journal, une à gauche, une à droite, donc d'avoir deux couvertures. Et le principe étant de pouvoir parler de l'actualité du bout du monde au coin de la rue, en ayant à peu près un tiers d'international et deux tiers de France, avec une attention particulière accordée au local.
Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus justement sur l'innovation qui concerne les rubriques ? Vous avez annoncé qu'il y aurait des innovations sur les rubriques.
Ah bah tout à fait. Bah, l'innovation, la première, est en fait l'absence de rubriques dans le sens dans lequel on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire actualité, France, économie, environnement, société, politique. On se rend compte qu'aujourd'hui, dans tous les titres, il y a des rubriques et il n'y a pas toujours une actualité qui peut correspondre à la rubrique. Et les journalistes se retrouvent enfermés à devoir remplir des rubriques pour correspondre justement à ce qu'on appelle le chemin de fer, c'est-à-dire l'ossature du journal. Et la rubrique a deux inconvénients. Le premier, c'est qu'en fait, elle n'aborde un sujet que sous un prisme particulier, alors que la transversalité aujourd'hui est très importante pour comprendre un sujet. Et ensuite, il y a quelque chose d'autre qui est assez dérangeant, c'est que le journaliste, à force d'être expert dans une rubrique, utilise de plus en plus des mots, des expressions que le quidam ou une personne lambda ne connaît pas forcément. Il a une expertise de plus en plus poussée sur son sujet qui le déconnecte parfois vraiment de la substantielle moelle d'un sujet. Je vous donne un exemple. En économie, on peut très bien dire la Fed relève les talons hors de 2 points. Or, on part du principe que qui sait déjà que la Fed est la réserve fédérale américaine ? Pourquoi est-ce qu'il y a une réserve fédérale américaine ? Etc. Donc, c'est sur cet entre-deux-là que va se positionner Hebdo pour donner des clés de compréhension et ne pas parler à tout le monde comme s'il était expert dans un sujet, parce qu'aujourd'hui, on a tous un domaine d'expertise, mais sur le reste de sujet, on a tous un petit peu 14 ans. Et il s'agit de prendre personne de haut, ni de rien vulgariser, mais de revenir en fait à l'essentiel, et c'est pour ça que le format papier est très intéressant, parce qu'il permet de faire des choix de longueur, des choix de hiérarchisation d'informations, et c'est quelque chose qui pousse en fait le journaliste à donner le meilleur et le plus clair par rapport
Très bien.
À...
Alors, rapidement et pour terminer, donc vous avez mis en avant cette idée donc de proximité avec le lecteur et de créer une communauté. J'imagine que c'est dans cette idée que vous avez lancé donc l'idée d'une tournée en minibus dans les régions de France. Notamment, vous étiez à Montpellier ce week-end. Donc la démarche, qu'est-ce que ça vous apporte de venir rencontrer comme ça en amont donc de la sortie du journal, le public en région?
Bien écoutez, nous, comme j'ai un peu de te l'expliquer, on essaie de faire une presse qui ressemble à ses lecteurs et pas à ses annonceurs. Et on part du principe où vraiment la première des démarches à faire est au moins d'aller à la rencontre de toutes ces personnes. Donc c'est pour ça qu'on va dans des centres-villes, on va dans des zones périurbaines, on va dans des zones rurales, on va dans des grandes villes. Et l'idée, en fait, est de ne pas faire qu'une tournée promotionnelle d'hebdo, mais d'interroger les gens sur leur pratique de la presse aujourd'hui, pour vraiment alimenter toute la réflexion qui est faite par l'équipe, de savoir comment travailler les angles, qu'est-ce qui peut intéresser les gens, et où se situe, en fait, d'une part, l'amour pour certains, mais aussi le désamour pour d'autres.
Très bien.
Et je vous avoue que c'est quelque chose de très intéressant. Je vous donne une petite anecdote, mais quand on a... des directeurs de la rédaction ou des journalistes qui bossent à Paris depuis 3-4 mois en vase clos pour préparer ce sujet et qui se retrouvent à tracter sur un marché ou dans un lycée pour parler à des étudiants et résumer en une ou deux minutes l'objet d'hebdo, je vous assure que ça les remet à leur place et ils rentrent tous à Paris inspirés avec vraiment l'envie de se dépasser. Et même pour nous qui sommes vraiment sur la tournée, c'est aussi une vraie manière... sans faire de langue de bois, de faire tomber toutes les représentations qu'on a des choses, parce qu'on part tous avec des présupposés par rapport à notre environnement, et les rencontres sont très riches, et les avis les plus intéressants viennent souvent des gens qui sont très sceptiques à l'origine, quand on leur présente le projet, et en fait, on se rend compte que voilà, c'est quelque chose qui est un peu au-delà d'un projet de presse, je dirais que c'est un peu un projet de société.
Très bien, je vous remercie beaucoup, au revoir Thibaut Brigadreux, au revoir.
Au revoir.